Et c'est reparti pour les Midi de Culture, deuxième partie. À 13h, je recevrai la photographe Sandra Caligaro, dont le travail sur l'Afghanistan est présenté en ce moment au festival Visa pour l'image, c'est à Perpignan. Mais tout de suite, place à Marie Sorbier et au Point Culture, bonjour.
Bonjour Marie, ravie de vous retrouver, bonjour à tous. Le 18 août, les spectateurs de la plateforme Kik ont assisté à la mort en direct du youtubeur Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Graven, humilié en live depuis des années contre de l'argent. Depuis, la société française se divise entre effroi et sidération et des début de prise de conscience et donc d'action possible. Pourtant, la fiction, elle, avait anticipé ces dérives du web et de l'esprit humain. La série Black Mirror, créée par Charlie Brooker, dont la saison 7 est toujours disponible sur Netflix, a encore une fois prouvé la justesse de son anticipation et c'est le dossier du Point Culture du jour. Vincenzo Susca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry à Montpellier. Vous avez publié en 2020 avec Claudia Attimonelli « Black Mirror et l'aurore numérique, nos vies après l'humanisme » aux éditions Libère. Alors quand le drame dont on parlait est survenu en direct sur la plateforme Kik, j'ai pensé immédiatement à l'épisode 1 de la saison 7 de la série d'anticipation Black Mirror. Dans cet épisode, un homme se retrouve à accepter des humiliations en ligne pour de l'argent. Alors quand cette série a commencé, on disait qu'elle anticipait notre futur à 10 ans. Là, j'ai l'impression que le temps s'est complètement accéléré. En quelques mois, un épisode trouve sa réalisation dans la vie réelle. Est-ce que vous étiez surpris ?
Non, pas vraiment. Même si ce qui s'est passé est vraiment grave, et même plus grave par rapport à l'épisode en question. Mais l'intelligence et la génialité de Charlie Brooker dans cette série a été justement celle de partir toujours de quelque chose qui existe déjà pour le radicaliser. Et là, on est en face exactement de cela. Dans l'épisode principal, le personnage principal va se suicider en suivant le même registre, c'est-à-dire d'une chaîne de streaming dans laquelle il est obligé, en quelque sorte, de s'infliger des douleurs et de se ridiculiser avec de la violence suite aux demandes de ses followers pour avoir de l'argent. L'argent lui servant à maintenir en vie sa femme. Dans ce cas-là, il y a une humiliation, une violence, une agression spectacularisée de la part de deux personnes sur deux personnes. Donc, ce n'est plus quelque chose qu'on s'auto-inflige, mais qu'on inflige à l'autre.
Est-ce que vous avez pensé tout de suite, vous aussi, à cet épisode-là, quand vous avez appris le drame qui s'était passé ?
Je pensais de suite à cet épisode-là, comme c'est le cas souvent pour les choses qui se passent par cette série, pensons à ce qui s'est passé récemment dans le cadre de la politique américaine, lorsque un président entrepreneur et animateur de télé-réalité discute de la paix et de la guerre avec un ancien animateur de la télé et un comédien Zelensky, Black Mirror a anticipé en quelque sorte cette réalité où les médias deviennent politiques. Où la communication dépasse le cadre du spectacle pour devenir la vie plus réelle que la réalité.
Alors vous le disiez, le créateur de la série part toujours de faits qui existent et tire en fait le réel. Avant, on avait l'impression que c'était certes un futur proche, mais un futur qui était quand même encore à quelques années de nous. Là, les épisodes qui sortent, on a l'impression que c'est un futur encore plus proche.
Oui, car Brooker décide en quelque sorte, au contraire de la science-fiction classique des années 50 ou 60, de montrer la vie quotidienne, notre vie quotidienne, en tant que dystopie réalisée. Et donc, en quelque sorte, Black Mirror est parallèle à notre réalité. Ce n'est plus quelque chose de loin dans le futur. Il parle de notre vie quotidienne devenue dystopique. Et d'ailleurs, le titre de l'épisode en question, c'est « Common People », des gens ordinaires. Et nous sommes en face des gens ordinaires dont la vie matérielle est devenue spectacle et mise en scène. Et où il n'y a plus aucune frontière entre le spectacle et la vie intime et la vie personnelle.
Black Mirror interroge surtout notre rapport aux nouvelles technologies. Qu'est-ce que ces plateformes live qu'on a pour la plupart découvert dans cette histoire disent de notre époque selon vous ?
On avait cru au 19e, notamment on avait espéré au 19e, que la vie quotidienne puisse devenir une forme d'art et que tout le monde devienne artiste. Or, l'évolution de l'industrie culturelle dans les dernières décennies elle nous a révélé sans doute que le quart d'heure de célébrité que Andy Warhol pensait lié à la télé est devenu 24 heures par jour où tout le monde est en scène, est spectacle, est à la fois artiste et œuvre d'art. Mais nous avons aussi vu le corollaire de ce processus, c'est-à-dire que tout le monde devient artiste œuvre d'art, mais aussi objet, image, information à disposition du spectacle continuel. Et lorsqu'on parle de spectacle, le spectacle a toujours à voir aussi avec l'humain dans ses aspects les plus excessifs, la violence et le sexe. La violence et le sexe sont maintenant au cœur du web.
Quand on regarde Black Mirror, on voit la catastrophe de notre monde et on y prend quand même du plaisir, on est obligé de le dire. Est-ce que, selon vous, la série esthétise cette déchéance ?
Sans doute, la série est une forme de euphorie nihiliste. Le plaisir que nous avons à la voir, même quand elle nous dérange, c'est le plaisir en quelque sorte de voir le pas en arrière de l'être humain occidental, et surtout de l'homme, du blanc, de l'hétéro. C'est en fait une manière de regarder de manière sublime la catastrophe de l'humanisme. Le cœur de cet épisode et le cœur de ce qui se passe maintenant de la vie quotidienne, c'est la crise définitive de l'humanisme, c'est-à-dire de cette condition de laquelle l'être humain est au centre du monde avec sa dignité, sa rationalité, sa lucidité. Voilà que nous sommes dans une condition où l'humain fait un pas en arrière. Et c'est un pas en arrière qui est une chute, qui est une catastrophe, et qui a quelque chose de carnivalesque, de grotesque.
Vous disiez qu'en effet, on était en train d'esthétiser cette catastrophe et qu'on y prenait du plaisir. Est-ce qu'on peut faire un lien, selon vous, ou est-ce que c'est trop tiré par les cheveux, avec le plaisir que prennent les spectateurs de cette plateforme à humilier ou à voir humilier d'autres êtres humains ?
Alors, peut-être d'un point de vue inconscient, peut-être d'un point de vue inconscient, comme jadis cela se passait par le film d'horreur, maintenant ça se réalise dans le cadre du web, dans lequel la frontière entre fiction et réalité est de moins en moins évidente. C'est-à-dire, ces spectacles ont une nature abstraite, virtuelle, les corps ne sont pas présents. Et par conséquent, la violence qu'on inflige à l'autre est moins évidente d'une certaine manière.
Vous voulez dire que finalement l'écran qui nous sépare nous empêche de considérer que c'est la réalité qui est en train de se passer ?
Sans doute. Le fait que tout cela se passe dans le même écran où nous envoyons des mèmes, des gifs et où nous scrollons sans attention participe à un certain manque d'attention pour la gravité de la situation. Cela a été le cas déjà pour d'autres formes médiatiques et écraniques. Mais cela est encore plus dans le cadre du flux continuel du web.
Vous disiez dans votre livre que pour vous, Black Mirror, c'était une œuvre totale. Votre livre date de 2020. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette théorie-là en 2025, après que la saison 7 vient d'être diffusée ?
Je pense. Et d'ailleurs, je crois que dans cette dernière saison, Charlie Brook a radicalisé son récit. Il a rendu encore plus extrême. Et mettre la barre plus haute est sans doute quelque chose qui a à voir avec la fiction contemporaine, mais aussi avec la vie quotidienne, dans laquelle, pour avoir de l'attention, pour dépasser les limites de l'économie informationnelle où il y a trop d'informations, on est obligé, en quelque sorte, de créer, de monter la voix et de mettre en scène des images extrêmes.
Bien, merci beaucoup pour votre analyse, Vincenzo Susca.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on a appris ce week-end la disparition de Stéphane Bouquet.
Oui, l'écrivain Stéphane Bouquet est mort à l'âge de 58 ans, à la fois poète, homme de cinéma, danseur ou encore traducteur. Il laisse derrière lui une œuvre éclectique et profonde. D'abord critique de cinéma pour les Cahiers à la fin des années 90. Il sera par la suite le scénariste de plusieurs films du réalisateur Sébastien Lifshitz. Au début des années 2000, il devient danseur et chorégraphe. Il publie dans le même temps son premier recueil de poésie, Dans l'année de cet âge, aux éditions Champvallon en 2001. S'en suivront une dizaine de recueils qui lui vaudront une certaine notoriété jusqu'à son dernier, paru en avril chez POL, Tout se tient.
Et pour finir, Marie, la saison des prix littéraires débute.
Oui, déjà plusieurs prix ont couronné ces jours-ci des romans de la rentrée littéraire. D'abord la primo-romancière Gabrielle de Tournemire, lauréate du prix Envoyé par la Poste pour son livre « Des enfants uniques » paru chez Flammarion, le prix Méduse a quant à lui couronné Raphaël Sigal pour « Géographie de l'oubli » publié chez Robert Laffont. C'est l'histoire de sa grand-mère, rescapée de la Shoah, dont les souvenirs sont altérés par Alzheimer. Et l'on a appris hier que le prix de la rentrée, décerné par le festival Les Écrivains chez Gonzague Saint-Brice, est allé à Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Dans son roman « Je voulais vivre », c'est son titre, paru chez Grasset, elle propose une réécriture des Trois Mousquetaires, mais du point de vue du personnage de Milady.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.